On continue de regarder les thèmes, différents thèmes. La semaine passée, on a vu la consolation. Avant, on avait vu l'élection. On reste encore aujourd'hui dans un thème qui est plus doctrinal, c'est la rédemption. Dans la Bible, la rédemption, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs aspects, là, au sens plus large, au sens plus précis. Donc, c'est l'action de racheter. Au sens plus large, parce que c'est utilisé aussi dans un sens large, c'est un synonyme de sauver. Notre rédempteur, c'est notre sauveur. Donc, sauver, quand Dieu sauve quelqu'un, il peut le sauver de peu importe sa situation, et c'est un acte de rédemption. Plus précis que ça, c'est un acte de libération. Comme Pierre vient de le dire, libéré de Satan ou libéré d'un danger, libéré d'un maître mauvais, libéré d'une attaque ennemie, donc une délivrance. Et plus précis encore, c'est un rachat, c'est l'action de racheter. Mais ça n'a pas toujours ce sens-là très précis là, de racheter. Des fois, le rédempteur, c'est au sens plus large. Puis il y a un concept qui est proche de la rédemption, c'est la rançon. C'est le paiement qui est versé pour le rachat. Donc, c'est une doctrine, c'est un concept, mais ça parcourt toute la Bible. Donc, c'est en même temps, c'est un thème. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job, c'est probablement le livre le plus ancien. On n'a pas des preuves formelles, là, mais probablement que ça a été écrit même avant la Genèse. Donc, Genèse nous rapporte les événements les plus anciens, la création du monde, mais le texte de Job lui-même aurait été probablement écrit avant Moïse. Donc, quelque part entre Abraham et Moïse, ou peut-être même avant Abraham. Donc, ça parle de Dieu, mais ça ne parle jamais du peuple d'Israël. Et c'est le premier livre à parler d'un rédempteur. On va aller lire ça ensemble dans Job, chapitre 19. Amen, merci. Donc, qu'est-ce que va faire le rédempteur, ce rédempteur-là dont Job parle, qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Pardon? Oui, il va se lever, il va le délivrer. Parce que dans quelle situation Job se trouve ici? La description qu'il fait, là? Oui, il est très malheureux. Oui, il a juste la peau des dents. Oui, très difficile. Et qui en est la cause, selon Job, ici? Oui. Oui, il pense que c'est Dieu, mais Dieu lui donne raison. C'est Dieu. C'est Dieu qui cause, c'est Dieu qui le frappe. Parce que même quand Job dit ça, Dieu dit qu'il n'a rien dit d'injuste à propos de lui. C'était vrai. Donc, c'est dans ce contexte-là où est-ce que Job décrit qu'il est frappé par Dieu. Qu'est-ce qu'il vit aussi comme douleur, là, en plus d'être frappé par Dieu? Le? Oui, ses amis l'ont abandonné, le trahissent. Et même pire que ça, oui, sa femme, c'est vrai. Mais dans Job, dans le chapitre 19, ses amis l'accusent. Ils sont devenus ses accusateurs. Il le condamne, il le juge. Donc, dans ce contexte-là, où est-ce que Job est frappé par Dieu de plusieurs malheurs et qu'il est accusé par ses amis, il les appelle quand même ses amis, là. Quand il parle du Rédempteur, c'est que le Rédempteur va venir le libérer de ça. Il va, donc, alors que Dieu le frappe, que ses amis l'accusent, le Rédempteur, lui, va le justifier. C'est comme... C'est pas le seul rôle qu'il y a ici, là, mais entre autres, il a le rôle d'un avocat qui vient de défendre sa cause devant Dieu, devant ses amis. Mais il souffre tellement que même Job est convaincu qu'il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il croit que le Rédempteur va faire pour lui aussi? Il va le ressusciter. Moi, j'entends pas bien à cause de la ventilation. Il va le justifier. Ah, mais s'il meurt, ça lui sert à quoi d'être justifié? Il va aussi le ressusciter. Il va le relever parce qu'il dit que même après sa mort, après que ses os vont être desséchés, comment il exprime ça, non? « Oui, après que ma peau aurait été détruite, ça veut dire qu'il ne lui reste plus rien. Là. Il n'a même plus la peau des dents. Là. Il meurt, mais il sait que grâce à son Rédempteur, il va voir Dieu. De ses propres yeux. Donc, il va reprendre vie. Là. Le Rédempteur va même faire surmonter la mort. Oui, Jean? Ouais, c'est vrai. Pour qu'on puisse les lire en 2025. Mais c'est une vérité qui est vraie pour toutes les époques. Là. Oui, donc le Rédempteur n'est pas opposé à Dieu. Le Rédempteur lui permet de s'approcher de Dieu. Donc Dieu, dans sa justice, frappe Job. Il sait ce qu'il fait. Il est toujours juste. Il va pouvoir un Rédempteur qui va le délivrer et qui va lui permettre de voir Dieu. Donc, même s'il meurt, le Rédempteur va le ressusciter et lui fera voir Dieu de ses yeux. Et ses accusateurs seront jugés. Il les avertit, là. Craignez pour vous l'épée. Les châtiments de l'épée sont terribles, afin que vous reconnaissiez qu'il y a un jugement. On croirait qu'il décrit Jésus, hein. Mais c'est il y a des siècles, il y a des millénaires que ça a été écrit. Dans l'Ancien Testament, quand on lit l'histoire, la plus grande œuvre de rédemption qui devient comme emblématique là, de toutes les autres, c'est celle que Dieu a faite pour les Israélites en Égypte. On va lire quelques versets dans Exode 6. Quelqu'un peut nous lire versets 2 à 8. Amen. Donc, comment est-ce que Dieu s'y est pris pour les libérer. Est-ce qu'il a négocié avec le pharaon? Est-ce qu'il a fait comme Trump fait avec les chefs des autres États, là? On va négocier des échanges, des tarifs. Je vais sortir mon peuple et je vais te donner ça. Non. Hein? Dieu a libéré son peuple, mais avec son bras puissant, avec la force de son bras. Il a humilié le pharaon. Il a enlevé tout pouvoir, là. Et au cœur de cette action-là de Dieu, versets 6 et 7, là, on trouve le cœur de la rédemption. « Je vous rachèterai par la force de mon bras, par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. » Donc, Dieu ne les a pas simplement sauvés, il ne les a pas simplement délivrés pour qu'ils errent dans les prés, il les a délivrés pour qu'ils lui appartiennent. C'est vraiment un rachat, un changement de maître. Et le principe du rachat, ça fait partie de la loi. On le retrouve à plusieurs endroits dans la loi. La loi que Dieu a donnée à son peuple. D'abord, dans Exode 13, on lit, « Tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, tout premier-né, même tout aîné des portées du bétail que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. » Ça veut dire que tu dois sacrifier un agneau pour pouvoir garder le premier-né de ton âne. Ou de n'importe quelle bête, là. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Il doit mourir parce qu'il appartient à Dieu. C'est une vie qui appartient à Dieu. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Lorsque demain ton fils te demandera, « Que signifie cela? » Tu lui répondras, « Par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. » Et comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Mais il faut avouer que l'explication qui est donnée ici n'est pas super claire. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous éclairer. C'est un acte qui est quand même un peu étrange, mystérieux, puis au point où est-ce que Dieu avait leur dit d'avance, là, vos fils, ils vont vous demander, pourquoi vous faites ça? Pourquoi le premier-né, tu le rachètes? Là, l'explication, c'est que Dieu avait fait périr les premiers-nés des Égyptiens alors qu'ils étaient en Égypte. Nous, on fait ça pour pouvoir acheter nos premiers-nés. Mais la logique ici est difficile à saisir, là. Je parle même pour moi, là, mais... Quelle explication vous voyez à ça? Oui, le premier-né dans une famille, c'est celui qui est comme qui a la force, qui a l'autorité sur ses frères même. C'est le plus important dans la maison. C'est l'héritier du père, en plus. Mais aussi, le rappel qui est fait, c'est qu'en Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Parce que Dieu est en colère, là, parce qu'on osait résister à sa volonté. Dieu a dit, bon, les Israélites vont sortir, là, je les amène, puis le pharaon résistait, les Égyptiens résistaient, Dieu est en colère. Mais il n'a pas tué les premiers-nés des Hébreux, des Juifs. Pourquoi? Comment ils ont été épargnés? Oui, parce qu'ils ont sacrifié un agneau, ils ont mis le sang sur le linteau. Fait, quand le... Comment il est appelé, là? L'ange exterminateur est passé, il n'a pas tué les premiers-nés parmi les Hébreux. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, qu'ils étaient sans péché, là. On comprend que normalement, la colère de Dieu aurait pu tomber sur eux aussi. Ils ont été épargnés par un sacrifice. Dieu leur a fait grâce. Mais les premiers-nés, ils ont été épargnés, mais ils lui appartiennent, là. Donc, s'ils peuvent continuer de vivre et que leur âme ne retombe pas à Dieu, comme son butin, là, ben, ça prend un sacrifice. Et ici, même, il y a un sacrifice d'agneau qui doit être donné, puis les Israélites doivent se rappeler que le premier-né, normalement, aurait dû mourir avec les autres. Il a été épargné, et les premiers-nés suivants, des générations suivantes, aussi sont épargnés. Pardon? Oui, c'est ça, ils sont épargnés temporairement. Ça va prendre le vrai paiement un jour, c'est vrai. Et les premiers-nés, en plus d'appartenir à Dieu, ils auraient dû être consacrés à son service. C'est proche, là? Mais Dieu pouvait soit rappeler leur âme directement dans le séjour des morts, parce qu'ils lui appartiennent, mais aussi il pouvait dire, maintenant, votre vie est consacrée à mon service. Comme les juges qu'il y a eu, là, Samson et d'autres, là. Comme les sacrificateurs. Et pour épargner le peuple, là, que tous les premiers-nés doivent quitter leur famille pour aller servir Dieu, mais Dieu a élu les Lévites. Parmi les 12 tribus, il a choisi la tribu de Lévi pour ça. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron, ses fils, et tu feras le geste de les dédier à l'Éternel. Je ne sais pas c'était quoi ce geste-là. Tu sépareras les Lévites du milieu des Israélites. Les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service de la tente de la rencontre, puis le tabernacle, le temple. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras le geste de les dédier, car ils me sont entièrement consacrés du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les aînés parmi les Israélites. Car tout premier-né parmi les Israélites m'appartient, tant parmi les hommes que parmi les animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les Israélites. Il y a les deux concepts, là. Les premiers-nés peuvent être épargnés de la mort et ils peuvent être soulagés d'être consacrés à Dieu à temps plein pour le service, là, parce que Dieu a pris une tribu à leur place. Ça fait du sens? Tout ça pointe à Jésus, évidemment. Il y a d'autres exemples de rédemption dans la loi. Un, c'est si un immigrant ou un résident temporaire chez toi a des ressources et que ton frère devienne pauvre, donc ton frère qui est israélite, il devient pauvre près de lui et il se vend à l'immigrant, au résident temporaire chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigrant, tu auras pour lui le droit de rachat. Donc, s'il se vend à l'immigrant, ça veut dire qu'il devient son esclave pour un temps, il vend ses services. Mais à l'époque, tu ne signais pas un contrat d'employé, là, tu devenais vraiment comme la propriété de l'immigrant. Mais Dieu disait, c'est temporaire. Donc, ton frère aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Puis là, il y a une procédure, une méthode pour calculer c'est quoi le montant à payer pour le racheter par rapport à l'année de jubilé ou... Ouais, je pense que c'est ça. Les 7 ans, ouais. C'est ça, la 7e année, il doit être libéré. Donc, par rapport à combien de temps qu'il lui reste, pour le racheter, ça coûtait plus ou moins cher. Mais il devait compenser le maître pour, parce qu'il rachetait, il le libérait, son frère. Et il continue, « S'il n'est pas racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui, car c'est moi que les Israélites sont les, c'est de moi que les Israélites sont les serviteurs. » Donc Dieu rappelait que même si on vendait ses services à quelqu'un d'autre, il demeurait toujours le maître. « Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, on pourrait dire, c'est de moi que les Israélites sont les esclaves. Ils m'appartiennent. Il y a vraiment une notion de propriété ici. Ça nous choque, nous, là, qu'un être humain soit la propriété de quelqu'un d'autre, mais on l'est de toute façon de Dieu, de sa propriété. Donc, c'était possible d'exercer le droit de rachat parce que l'homme pouvait pas être, un juif ne pouvait pas être en permanence l'esclave d'un autre, parce qu'il était l'esclave de Dieu. Ça a du sens? L'autre droit de rachat, vous en souvenez peut-être, dans la loi, c'est celui de racheter sa belle-sœur. Jésus ne nous demande pas de faire ça. Deutéronome 25. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, mais là, son nom ne pouvait pas être perpétué. Là. Il risquait de perdre sa terre et son nom. Mais il dit, la femme du défunt, la veuve, ne se mariera pas au dehors avec un étranger, parce que son mari perdrait son nom, mais son beau-frère ira vers elle et la prendra pour femme. Il l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera, donc quand elle va avoir un fils, il portera le nom du frère défunt. Ça a du sens? Donc, si Jean meurt et que sa femme épouse son frère, le premier fils qu'elle aura va porter le nom de Jean. Ça va être fils de Jean. Aujourd'hui, on a un nom de famille, donc le fils porterait le nom de famille du défunt pour s'assurer qu'il y a une lignée. Afin que ce nom ne soit pas effacé en Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera la sandale du pied et lui crachera au visage. » C'était très détaillé, hein? Elle fera une déclaration en ces termes, « Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère, et le nom qu'on l'appellera en Israël sera la maison du déchaussé. » Wow! Là, ici, on n'a pas d'exemple de comment les Israélites ont appliqué cette loi-là. Puis dans le texte qu'on vient de lire, le mot « rachat » ne se trouve pas. Mais on sait que c'est un droit de rachat, que le beau-frère rachète sa belle-sœur. Puis, en le faisant, il c'est comme s'il rachète la maison. Il relève la maison de son frère décédé. Mais on sait que c'est ça parce que l'histoire de Ruth le confirme. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Ruth. On va lire Ruth, chapitre 3. Ruth, c'est juste avant Samuel, après Juge, versets 9 à 13. Merci. Donc ici, quand on lit l'histoire, la veuve dans l'histoire, c'était d'abord Naomi, ou Noémie, ça dépend des traductions, qui était femme d'un juif, Elimelech, puis elle est décédée. Pourquoi est-ce que c'est Ruth qui va s'offrir pour le droit de rachat? Le texte ne le dit pas, là, mais qu'est-ce que vous pensez? Oui, Elimelech a eu deux fils, dont Malon, qui était mari de Ruth, et lui aussi est décédé, donc Ruth aussi était veuve. Donc, la maison pouvait être rachetée par la première veuve ou sa descendante, ça revenait au même. Donc, ça y est. Si Ruth s'offrait et elle était rachetée, elle allait relever le nom de Malon, donc le nom d'Elimelech. Puis, ça fait du sens que ça soit Ruth parce qu'elle était jeune. Puis, le texte semble dire que Noémie ne pouvait plus enfanter. Là. Elle était trop âgée. Donc, Ruth s'est offerte à la place de Noémie. Donc, le devoir de rachat fonctionnait aussi avec elle, mais c'était vraiment une action de bonté. C'est vrai qu'elle aurait pu refaire sa vie avec un jeune homme, comme dit Boaz ici, Boaz. Mais elle l'a fait vraiment pour relever la maison de de sa belle-mère, donc de son beau-père décédé, par bonté. Et on va lire au chapitre 4, maintenant, les versets 1 à 12. Donc ici, Boaz s'en va à la ville, puis il suit la procédure. Et d'abord, il offre à quelqu'un qui est plus proche de lui, de la famille. Et l'homme refuse parce qu'il ne veut pas mélanger son héritage avec celui d'Élimélec, puis il pourrait s'en trouver appauvri. Là. Il voulait que ça reste seulement à lui. Donc, il avait crainte, puis il dit « OK, vas-y, Boaz, tu peux le faire. » Et Boaz rachète la propriété et Ruth. Puis le nom d'Élimélec vient avec. Là, donc, ça, il assure la postérité d'Élimélec en le faisant. Donc, Boaz, dans le récit, il est comme le premier rédempteur. C'est lui qui rachète. C'est un homme bon, un homme de valeur qui agit comme rédempteur. C'est le premier rédempteur dans le récit. Mais il y a un autre rédempteur qui est présenté dans la suite, 13 à 17. Donc, c'est qui l'autre rédempteur qui est célébré ici? Même on annonce qu'il va être célébré. C'est vrai. Mais ça, on devine. Mais d'abord, c'est Obed. C'est le fils de Ruth qui devient comme un fils pour Noémie, un fils pour Élimélec. Donc, grâce à ce fils-là qui naît, la maison est rachetée. Donc, le fils devient lui-même comme un rédempteur. Son nom va être célébré. C'est intéressant parce que le nom qui lui est donné, Obed, ça veut dire servant, comme servante, ou on pourrait dire serviteur. C'est le fils par qui la maison de Noémie est relevée. Est racheté. Et le texte ajoute qu'il est grand-père de David. Puis en Israël, le nom d'Obed va être célébré, oui, puis on lit encore son texte aujourd'hui, mais c'est son petit-fils David dont le nom va devenir très grand. Là. Le premier roi d'Israël, un roi selon le cœur de Dieu, le premier roi qui est bon. Et il est donc l'ancêtre du Messie. Donc le rédempteur qui va être célébré, ça devient Jésus. À cette époque-là, on ne sait pas encore qui ça va être, mais on sait que c'est un descendant. Descendant de Obed. Donc, ça désigne d'abord Obed, aussi David, et aussi le Messie, qui est le Rédempteur. Ça fait du sens? Le Rédempteur, c'est devenu un titre courant aussi pour Dieu. Parce qu'il est, quand on se souvient de lui, dans l'Ancien Testament, on se souvient que c'est lui qui, les Israélites se souvenaient, c'est lui qui nous a rachetés, là. Donc, il était surnommé le Sauveur, mais aussi le Rédempteur. Psaume 19 dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche, la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » On le chante d'ailleurs dans nos chants. Hein? Dans Ésaïe 47 aussi, notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Il y a aussi d'autres rédemptions qui sont annoncées dans les psaumes, dans les prophètes. Donc, Dieu était rappelé, il était appelé rédempteur parce qu'il a libéré Israël, il l'a racheté, mais aussi, il y a d'autres rédemptions qui sont annoncées. Bon, on a le temps, on va aller voir. Quelle rédemption qui est annoncée au psaume 49? Est-ce que, Aldrich, tu pourrais nous lire, s'il vous plaît? Versets 8 à 16. Oui, il y a comme un décalage. Peux-tu commencer au verset précédent? Merci. Donc, quelle rédemption dont il est question ici? Qu'est-ce qui est racheté? Oui? Pardon, je n'ai pas entendu. Par rapport à... Elle parle un peu plus fort parce que j'ai la sortie d'air juste au-dessus de ma tête, je n'entends pas. Oui, délivré du séjour des morts. Donc, c'est le rachat de l'âme. Donc, c'est par rapport à la destinée éternelle, même après la mort. Donc, Dieu annonce un rachat qui n'est pas seulement sur la terre, une libération, là. C'est pas seulement la maison sur la terre qui est relevée. Lui parle d'une rédemption de l'âme, libération de la mort. On a le psaume 130 aussi, qui annonce une autre rédemption, une autre libération. Oui, donc de quel rachat qu'il s'agit ici? Du péché. Donc c'est la libération du péché. C'est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est intéressant. Plus tard, le peuple d'Israël, à cause de leur péché, oui, osé. Puis dans le contexte de l'exil où le peuple avait été décimé, là, puis dispersé, l'Éternel annonce qu'un jour qu'il va racheter son peuple dispersé. Et s'il parle maintenant à l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Puis même pour faire ça, Dieu dit qu'il va, il va payer une rançon. En fait, c'est les autres nations, des hommes qui vont servir de rançon pour le paiement de ce rachat-là. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à la place, à ta place et des peuples pour ta vie. » Donc, le prix pour racheter son peuple, là, Dieu, là, et ça coûte cher. En fait, c'est les autres qui passent au cash. Donc, pour justifier son peuple, il y a une condamnation des méchants qui doit avoir lieu. Tout ça, ça illustre les principes qu'on voit dans l'Ancien Testament. Même le concept de l'épouse, le lien entre Dieu et son peuple, était déjà présent dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit qu'il va racheter son épouse. « Celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. » Donc même le principe du rachat d'une épouse, là, servait à illustrer qu'un jour Dieu allait racheter pour lui un peuple dispersé. Et enfin, on voit ça s'accomplir dans le Nouveau Testament. Bien, on le voyait déjà partiellement dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau arrive. Et la naissance de Jésus elle-même marque le début de cette rédemption-là qui avait été promise. On en parle dans Matthieu, comme disait Osée. Dans Luc, on voit, c'est Zacharie qui parle, je pense, ici dans Luc 1, 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. » Mais c'est quoi l'action que Jésus a faite qui est vraiment l'action de rachat? C'est pas sa naissance. Sa naissance a marqué le début du rachat, mais c'est sa mort. Et c'est ce que Jésus parle aussi. Il en parle une fois dans Marc, dans Luc, c'est mentionné à quelques reprises aussi. Dans Marc 10, 45, il dit « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc vraiment, il paye le prix lui-même pour que beaucoup soient rachetés. Donc, comme on voyait dans la loi où les Juifs devaient sacrifier un agneau, mais là, c'est l'agneau de Dieu qui est offert pour notre rachat. Et 1 Pierre 1, verset 18-19, c'est ça, on était rachetés par le sang de Christ. Maintenant, il y a une question naturelle que plusieurs se sont posées. Quand ils se la posent, ils pensent qu'ils sont les seuls à se poser cette question-là, mais c'est à qui la rançon a été payée? On dit que Jésus est la rançon qui a été payée pour le rachat de nos âmes. À qui cette rançon-là a été payée? À Dieu? Qu'est-ce que tu disais? Oui, vous avez raison. Mais plusieurs ont supposé que la rançon a été payée à Satan. Puis il y a comme une doctrine qui a été popularisée là-dessus. Dans le monde catholique, ça a été popularisé aussi, là. Oui, il y a plusieurs pentecôtistes qui enseignent ça. Il enseigne comme si Satan, c'est un maître, presque comme un dieu méchant qui se bat contre le dieu bon. Puis le dieu, il a dit, « OK, je vais t'arracher la propriété des humains qui sont à toi. Là, je vais les arracher, je vais les payer. » Donc, Dieu a fait mourir son fils, puis il a payé cette rançon-là à Satan pour que des hommes soient transférés de propriété. C'est vrai qu'il y a un transfert de propriété, mais jamais la Bible dit que la rançon elle a été payée à Satan, comme si Dieu devait négocier avec lui. La manière dont Dieu agit avec Satan, c'est avec un bras fort, la même manière qu'il a agi avec le Pharaon. Il n'a pas négocié avec le Pharaon. Il n'a pas payé le Pharaon pour son peuple sorte. Il a arraché son peuple au Pharaon, puis même le Pharaon a payé parce qu'il a osé résister. Donc, Dieu traite Satan de la même manière. Il arrache, comme de force, là, ceux qu'il sauve pour faire son peuple, puis un jour, Satan va payer. Déjà, il a la victoire sur lui, mais à la fin des temps, Satan va être détruit. Et premièrement, son principal chef d'accusation, c'est qu'il a osé s'approprier les hommes. Oui? Oui, c'est ça, tu as raison. On sait pas seulement, il ne faut pas seulement nier le fait qu'il l'a payé à Satan, il faut se rappeler qu'il l'a payé à Dieu. Donc, c'est pour la justice de Dieu. Et il l'a payé à notre place. Normalement, on aurait dû nous-mêmes payer pour notre achat, mais on est incapable. C'est comme ça exprimé dans le psaume qu'on a lu tantôt. Il faudrait payer un montant inimaginable. Même notre vie n'a pas assez de valeur pour racheter notre propre place dans le séjour des morts, là, pour qu'on puisse être libéré. Ça prenait quelqu'un d'autre qui vienne offrir un paiement de la valeur suffisante, infiniment supérieure. C'est Jésus. C'est Dieu lui-même, en fait, qui l'a payé à notre place pour lui. Oui, et c'est rétroactif. C'est ça s'était accumulé, mais Jésus, quand il vient, il paye même la somme immense qui a été accumulée à travers les âges. Et même futur, c'est vrai. Oui, c'est le cœur mauvais. On va voir toutes les facettes de ce qu'il nous rachète, là. Mais il nous rachète d'un mauvais comportement, il nous rachète de notre cœur mauvais. Il nous rachète aussi d'un mauvais propriétaire, qui est Satan, qui est comme notre maître. Il nous transfère. Ah oui, ça appelle une autre vérité, là. C'est pas tous ceux qui pensent bénéficier de ce rachat-là qui, en réalité, vont en bénéficier. C'est même exprimé comme dans le Nouveau Testament qu'il y en a qui renient le maître qui les a rachetés. Donc, en fin de compte, ils n'avaient pas été rachetés, là. Leur âme n'avait pas été rachetée. Ils bénéficient de cette grâce temporairement sur la terre, là. Ils côtoient des chrétiens, mais c'est pas tous ceux qui pensent être dans l'Église qui le sont réellement. C'est exprimé dans Apocalypse 5, versets 9 et 10. C'est ça. Donc, le salut ici est vraiment exprimé comme un rachat. Tu vas racheter des hommes de toute nation, de toute langue, pour être à lui, pour faire son peuple. Et nous devenons ses serviteurs, les sacrificateurs pour Dieu. Donc, de quoi avons-nous été rachetés? D'abord, dans Tite 2, nous avons été rachetés de toute iniquité. Donc, ici, dans le contexte, il compare avec... il dit qu'on renonce à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière... pour vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste, pieuse. Donc, c'est un changement de style de vie, là. On marchait dans le péché, on est racheté de cette vie-là de péché. On est racheté des mauvaises œuvres. On est racheté pour qu'on cesse de vivre. C'est vraiment un début, là. On cesse de vivre dans le péché. On est racheté aussi de quoi dans Galates 3? Ouais, donc nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, ça veut dire de la condamnation. Dieu nous a rachetés, puis on n'est plus sous la loi, donc on ne sera pas condamné pour avoir enfreint la loi. Puis un dernier passage dans Colossiens 7, 13, 14. Ouais, c'est ça. Donc il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il ne nous a pas juste délivrés des ténèbres, mais de sa puissance, de son pouvoir. Comme Jean disait tantôt, les hommes de père en fils là, étaient dans le péché, mais c'est parce qu'ils étaient esclaves de ce péché-là, esclaves du pouvoir du mal, esclaves de Satan. Là. Puis ils en ont été délivrés. Pour les élus, la rédemption est déjà acquise, on est déjà racheté. C'est pour ça qu'on peut louer Dieu pour sa rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mais la rédemption est aussi à venir. Elle est aussi future, finale. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, la rédemption, on peut louer Dieu parce qu'il nous a rachetés, mais il y a une rédemption qui est encore à venir. Qu'est-ce qui est encore à venir comme rédemption? Oui, donc la rédemption de notre corps. C'est ce qu'on voit dans Romains 8. Bon, on va le lire. Je vais vous le lire. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous, ça. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc on attend la rédemption de notre corps, et quand la rédemption de notre corps va avoir lieu, qu'est-ce qui va pouvoir aussi avoir lieu par la suite, dans le passage qu'on vient de lire? Quelle autre rédemption? Ouais, la rédemption de la création tout entière. C'est comme si présentement la création, elle attend, là, elle souffle les douleurs de l'enfantement, puis elle attend qu'elle soit révélée les fils de Dieu. Puis quand nous serons ressuscités, enfin toute la création pourra elle aussi être rachetée, remise à neuf. En attendant ce jour-là glorieux, le Nouveau Testament nous invite, nous rappelle souvent qu'on est racheté. C'est pas juste pour qu'on puisse remercier Dieu, il y a aussi une implication forte à cela, là. Si on est racheté, ça veut dire qu'on appartient à Christ, on appartient à Jésus, on est ses esclaves. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. On ne s'appartient pas, là. On n'appartient pas à nous-mêmes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est une invitation, c'est une exhortation à la sanctification, à une vie de sainteté. Puis quand on arrive à la fin de la Bible, la rédemption, je pense que c'est le thème principal de l'Apocalypse en entier. On a lu tantôt que Christ nous a rachetés, mais toute l'Apocalypse parle de cette rédemption-là sous ces différentes formes-là. Christ rachète les hommes, il les libère de la condamnation du péché, il est payé par son propre sang, il inscrit leur nom dans le livre de vie. On peut même voir le livre de vie comme le registre de ceux qui ont été rachetés. Quand Dieu rachète les hommes, là, il est écrit dans le livre de vie. Si nos noms sont dans le livre de vie, c'est parce qu'on a été rachetés, qu'on appartient à Dieu. Il les rassemble pour former son épouse qu'il a rachetée, la Nouvelle Jérusalem. Christ est le Rédempteur, non seulement parce qu'il rachète, mais parce qu'il a la victoire sur la mort, sur le mal. Oui, mais je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est les deux, quand même. Comme dans Romains, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir comme étant libéré du péché et de ne plus pécher, là. C'est vrai. On peut dire qu'il nous libère du péché, mais en plus, il nous libère de la condamnation. Quand on arrive dans Apocalypse 20, on se présente devant le trône, là, puis les livres sont ouverts, puis on voit les actions de chaque homme. Mais nos actions, il y en a des mauvaises là-dedans, là. Mais on est épargné de subir la condamnation parce que notre nom est dans un autre livre, le livre de la vie. Puis, la rédemption de la création, elle apparaît aussi dans Apocalypse. Christ libère la création en détruisant le mal. Donc, pour recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre, d'abord, le mal doit être jeté en enfer, là, dans l'étang de feu. Et tous ceux qui font le mal. Et Satan avec. Et même la mort jetée dans l'étang de feu. Puis il a recréé la terre en y faisant habiter sur elle ses serviteurs qu'il a rachetés pour toujours. C'est vraiment le thème de l'Apocalypse, la rédemption. Donc, en conclusion, la rédemption par Dieu des Israélites en Égypte, c'est devenu vraiment le fondement de tous les rachats dans l'Ancien Testament, et c'est le type, c'est comme le modèle, la première version de la rédemption en Jésus. Donc, quand on lit dans l'Ancien Testament, à chaque fois que la rédemption apparaît, là, c'est une des facettes là, de la rédemption en Christ. Jésus est, ce qui est étonnant de la part de Jésus, c'est qu'il est à la fois le Rédempteur et il est la rançon. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ainsi, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc, il est celui qui fait l'action, il est le Rédempteur, mais il sert lui-même de rançon dans ce paiement, dans ce rachat. Donc, nous sommes constamment rappelés que nous devons nous comporter comme des rachetés de Dieu. Amen. Et on va prier pour conclure. Merci Seigneur pour ce si grand sacrifice que tu as opéré, ce don, cette rançon que tu as offerte pour nous racheter. Permets que nous comportions comme de dignes rachetés. Les hommes qui ont été délivrés du pouvoir du mal, du péché, et qui se comportent maintenant comme des hommes, des femmes libres, libres pour faire le bien, pour accomplir ta volonté. Continue de nous sanctifier, de purifier ton Église. Fais en sorte que tous ceux qui sont dans ton Église, ici à Rosemont, soient réellement tes enfants et que ceux qui n'ont pas encore réellement pris cette décision, qui n'ont pas encore mis leur foi en toi, le fassent de tout leur cœur et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient rachetés. On te prie aussi de faire grandir ton peuple, de continuer de faire grandir ton peuple racheté, de continuer de racheter de toutes les nations, de tous les peuples. Puis on te prie que le Rédempteur revienne bientôt pour racheter nos corps et la création. Je te demande au nom de Jésus. Amen.